OK, chronique en droit du travail avec Maître Philippe Coderre de la firme La Pointe Beaulieu. Salut Philippe.
Salut.
On parle souvent dans tes chroniques de l'importance pour une entreprise d'avoir une politique contre le harcèlement psychologique et c'est important de dire que ça va devenir obligatoire à compter du 1er janvier. Ça arrive vite, là, c'est dans à peine un mois. Je veux d'abord, parce que j'ai l'impression que les gens qui ont des petites entreprises, un dépanneur, un petit restaurant du coin, ont peut-être pas l'impression que c'est pour eux autres, ont plus l'impression que c'est pour les grandes entreprises. C'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas. Puis, puis on parle des politiques d'harcèlement, mais il y a des politiques sur tout, là. C'est important pour une entreprise d'avoir des politiques comme ça. Puis pour plusieurs employeurs que je représente, on me dit souvent « X, c'est de la paperasse ». C'est lourd. Sauf que le but d'une politique, c'est d'abord de faire de la prévention, aviser les employés de nos attentes, et deux, de se protéger en cas de litige. Donc, c'est bien important qu'on puisse faire la démonstration dans un litige X que moi, en tant qu'employeur, j'ai fait de la prévention nécessaire, j'ai clarifié mes attentes de façon claire à tous mes employés. Donc, c'est pour ça que tu sois la petite entreprise ou la grosse entreprise, les politiques sont importantes. C'est sûr que la portée de la politique peut être différente. T'sais, pour une multinationale, peut-être ça va être une politique
de plus compliqué.
De plus compliqué. Peut-être ça va être 16 pages la politique. Pour la plus petite PME de 12 employés, une petite politique de 2 pages va être suffisante. On peut s'ajuster à ce niveau-là, mais c'est important que tous les employeurs le fassent.
Bon, tu disais, il y a plusieurs types de politiques. Là, on parlait entre autres du harcèlement psychologique. Là. Les politiques essentielles, on parle de quoi?
Bien, essentielles, je vous dirais que de nos jours, une politique concernant les médias sociaux, c'est rendu vraiment essentiel là, pour clarifier les attentes. On a parlé dans une chronique l'année passée. Là, je pense que c'est important que l'employeur le dise à ses employés qu'il n'y aura pas de vie privée nécessairement si ça se rend à mes oreilles ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux et si ça nuit à mon image de marque. En matière de drogue, on a parlé également il y a une couple de semaines, ça c'est rendu essentiel. Là. Si vous n'avez pas ça, là, vraiment vous faites fausse route. Mais il y a d'autres sortes de politiques aussi. Ce que je vois beaucoup en pratique, c'est des codes de conduite. Donc les employeurs vont implanter des codes de conduite sur une série de règles qui sont applicables dans l'entreprise, par exemple les conflits d'intérêts, par exemple le comportement, l'éthique, la loyauté. Donc ça, on peut tout mettre ça dans un seul et même code de conduite. Il y a aussi des politiques sur le service à la clientèle qui peuvent être intéressantes. Mais en termes de politique essentielle et obligatoire, maintenant, on parle vraiment de l'harcèlement, là. C'est la seule qui est prévue, là.
Bon, alors ça, c'est donc à partir du 1er janvier, ça devient obligatoire. Qu'est-ce qu'elle doit contenir, cette politique-là, Philippe?
D'abord, on doit cibler un champ d'application, puis ça, c'est bien simple. La politique s'applique à tout le monde, que vous soyez cadre ou employé. Là, vous devez l'écrire, là, ça s'applique à tous, la politique d'harcèlement psychologique. Ensuite, il faut mettre les définitions. Ça, c'est l'affaire qui est assez importante. Donc, on doit d'abord mettre la définition légale. Et par la suite, ce que moi, je recommande souvent aux employeurs, c'est d'inscrire dans cette politique-là ce que ce n'est pas du harcèlement. Parce que les employés, souvent, vont confondre le droit de gérance, par exemple, avec du harcèlement.
Oui.
Ou ils vont confondre un conflit de travail avec du harcèlement. Donc, on peut prévoir dans la politique, d'abord, on met la définition légale et par la suite, on donne des exemples de ce que c'est du harcèlement et on ajoute des exemples de ce que ce n'est pas. Donc, ça peut vraiment aider à peut-être un peu clarifier les situations dans les entreprises. Et par la suite, c'est bien important de prévoir des rôles à tout le monde. Donc, c'est sûr, si vous êtes une multinationale, vous allez avoir une plus grosse structure, vous allez pouvoir vous permettre d'avoir un directeur des ressources humaines avec une personne responsable d'application de la politique. Ça, c'est plus clair. Mais si vous êtes une petite PME, il faut au moins déléguer le rôle de contrôler l'harcèlement psychologique à une personne dans l'entreprise pour que les gens puissent savoir à qui je m'adresse.
Si je vis une situation que je considère comme du harcèlement.
Exactement.
Ouais.
Et par la suite, très, très, très important, c'est pour ça qu'on met des politiques en place en matière d'harcèlement. Il faut qu'il y ait un mécanisme de plainte. Le but de la législation, là, c'est pas que tous les dossiers d'harcèlement se ramassent devant les tribunaux. C'est que ça soit géré à l'interne. Donc, il faut dire aux employés, si vous avez une situation, voici à qui vous adressez. Voici de quelle façon vous remplissez votre formulaire de plainte. Vous pouvez même prévoir un canevas de formulaire de plainte. Et voici ce que cette personne-là va faire. Il faut qu'il y ait une personne ressource là, qui vienne gérer tout ça. Et on peut prévoir des mécanismes comme des médiations ou on peut prévoir même des enquêtes plus poussées pour déterminer s'il y a du harcèlement. Ça doit être inscrit dans la politique. Et par la suite, il faut prévoir aussi des mesures correctives. Tu sais, les mesures correctives, ça peut être accorder un congé sans solde à un employé victime, ça peut être lui fournir de l'aide psychologique. Donc, on peut les annoncer, ces mesures-là, dans la politique.
Bon, avoir une politique, c'est une chose. Prenons une entreprise qui n'en a pas présentement, qui t'écoute aujourd'hui, qui dit « 1er janvier, ça en vient vite, je veux être conforme, puis by the way, c'est important d'en avoir une aussi ». Mais au-delà là, de faire bâtir sa politique anti-harcèlement, ben, faut la présenter aux employés, faut bien la diffuser. Comment ça fonctionne? Comment s'y prendre?
La meilleure façon, d'abord, c'est chaque fois qu'il y a une embauche, vous passez du temps avec les employés, les nouveaux employés, pour lire les politiques avec eux. Ça, c'est, j'ai un employeur, un client à Montréal qui fait ça, puis c'est très efficace.
S'assurer que tout le monde est à niveau.
Exactement. Et là, il signe, j'ai lu, j'ai pris connaissance des politiques. Autrement, la formation, c'est très important. Donc, on peut embaucher quelqu'un de l'externe qui va faire des focus group et qui va former les gens. Moi, je l'ai fait l'année passée. J'ai formé, je pense, à peu près une soixantaine d'employés dans une entreprise. Ça a été très, très, très efficace parce que là, les gens partagent leurs expériences. Les gens ont plus d'exemples concrets de ce que c'est du harcèlement.
Oui, puis s'ils ont des questions, tu es là pour y répondre.
Exactement.
Parce que souvent, ça va être un petit questionnaire en ligne. On donne les informations, deux, trois questions, mais il y en a qui posent vite. Là.
Exactement. Donc, alors que si on diffuse, d'abord, on l'envoie par courriel ou on l'affiche à quelque part, et en plus, quelqu'un vient former les employés sur la politique que vous mettez en place, ça, c'est très, très efficace.
Puis un rappel de temps en temps, je présume.
Exactement. Il faut la mettre à jour, puis il faut faire un rappel de temps en temps.
Là, on dit que ça devient obligatoire à compter du 1er janvier. Une entreprise qui ne s'y conforme pas, Philippe, quelles sont les conséquences ou quelles seront les conséquences?
Cette entreprise-là va être dans le trouble. D'abord, il y avait déjà un courant jurisprudentiel qui disait que c'était essentiel d'avoir une politique. Là, c'est juste le législateur le codifier un peu là, cette obligation-là. Ce que ça fait, c'est que l'employeur, lui, a l'obligation de fournir un milieu de travail exempt d'harcèlement psychologique. Si quelqu'un subit du harcèlement, l'employeur en défense souvent va dire « ben moi, j'ai tenté de prévenir le harcèlement dans mon entreprise ». Si vous n'avez pas de politique, surtout à compter du 1er janvier, ça va être pris pour acquis que vous n'avez pas pris tous les moyens pour prévenir le harcèlement. Et là, vous allez pouvoir être condamné à payer des dommages moraux aux salariés victimes parce que vous n'avez pas occupé votre rôle là, que vous deviez occuper.
Oui, c'est comme une preuve ultime en partant que vous vous en êtes pas occupé. Là.
Exactement. Donc, c'est vraiment essentiel. Si vous n'avez pas ça à compter du 1er janvier 2019 et qu'un employé est capable de faire la preuve d'harcèlement, vous allez devoir payer des dommages moraux.
Cela dit, Philippe, en terminant, c'est pas parce qu'on a une politique en bonne et due forme qu'un employeur peut se croiser les bras et dire « ben moi, ma job est faite, merci, bonsoir ».
Ça, c'est l'erreur qu'on voit aussi en pratique. Donc, il y a des employeurs qui disent hey, « moi, j'ai une politique l'employé n'a pas déposé de plainte selon la façon prévue par la politique, donc j'avais rien à faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
On peut pas jouer à l'autruche.
Non, on peut pas juste la tabletter puis penser que ça nous couvre. Là. Donc, on a une politique, mais il faut être proactif. N'oublions pas que le but de la politique, c'est de prévenir le harcèlement. Donc, si un employeur décèle des situations qui pourraient causer du harcèlement, comme un conflit de travail, par exemple, puis qui fait rien parce qu'il n'y a pas eu de plainte formelle selon la politique de l'entreprise, sa responsabilité va être engagée également. Là. Donc, la politique, c'est un outil pour prévenir, c'est un outil pour se protéger en tant qu'employeur. Encore faut-il qu'on la rende utile, cette politique-là, puis qu'on lui donne du mordant en l'appliquant tous les jours.
Oui, c'est comme un plan de match au hockey. Là.
Oui,
c'est bien
beau,
un bon plan de match, mais si les joueurs l'appliquent pas, puis le coach il dort en arrière du banc, ben, il va se faire sacrer dehors.
Exactement. Le but, c'est d'avoir un plan de match plus efficace que celui de Guy Boucher.
Ben oui. Ben, hier, c'était pas pire. En troisième.
En troisième.
Merci, Philippe. À la semaine prochaine.
Merci, au revoir.